おかしい、おかしい。
Dialogue entre Congolais Liaison avec Alain Héron de la présentation.
Bonsoir. Fonctionnement des assemblées provinciales en province orientale. Les députés exigent la démission du bureau à l'Équateur, celle du président, et au Katanga, le siège de l'assemblée provinciale est toujours fermé. Quel état des lieux dressé du fonctionnement des assemblées provinciales à une année de la fin de la législature actuelle? Nos invités sont Gilbert Kersingé, conseiller juridique au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire. Il est avec moi dans ce studio. Bonsoir Gilbert.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, coordonnateur du réseau d'action citoyenne pour la démocratie racide, lui est en ligne. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Arsène Mouaka, également en ligne, coordonnateur du centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Bonsoir Arsène.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Et vous, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à réagir. C'est le cas de Badin Chako Tongomo Ambandaka à l'Équateur. Dans un pays démocratique, le pouvoir se trouve entre les mains du peuple. C'est pourquoi en 2011, le peuple congolais aidera les députés à quitter les assemblées tant nationales que provinciales, car ils semblent privilégier leurs intérêts personnels. Boris Maëlys Odegema au Nord Kivu. La punition sera très sévère en 2011 contre ces députés car les 3 ans de dispute ne leur ont pas suffi. Ils continuent avec des distractions en ne visant que leurs intérêts au lieu de capitaliser cette année restant pour travailler au service du peuple. Vous l'avez compris, chers auditeurs, vous êtes également le 4e invité. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
On observe de plus en plus des malaises au sein de certaines assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Malaise soit entre les députés et le bureau, soit encore entre les députés eux-mêmes. Certaines sources affirment que la mauvaise gestion des ressources et les querelles politiciennes figurent parmi les causes de ces dysfonctionnements. Illustration avec vous, Kélin Côté.
Le fait le plus récent, c'est dans la province orientale où les groupes parlementaires de réflexion demandent la démission immédiate du bureau de l'Assemblée. Un des griefs mis à la charge du bureau de l'Assemblée provinciale de la province orientale est la malversation financière. Le même problème se pose aussi en Mbandaka. Depuis samedi dernier, les séances plénières sont suspendues à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est suite à une motion incidentielle de l'honorable Jean Gautran Ibambé qui demandait que la police des débats soit retirée au président de l'Assemblée provinciale qu'il accuse de détournement des deniers publics. Une grande majorité des députés accusent aussi les membres du bureau d'être complices de leur président. Au Kassai-Oriental, c'est des députés provinciaux qui brillent par l'absentéisme aux plénières depuis l'ouverture de la session du 15 janvier. Ce fait a été relevé au cours de la plénière de lundi dernier à travers une motion d'information. Un des députés provinciaux, Patrick Balobalogi, élu de la circonscription de Kabinda, estime que le manque d'engouement à l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental est lié à la situation socio-économique précaire des députés provinciaux. Au Katanga, le siège de l'Assemblée provinciale est toujours fermé après l'incident survenu il y a environ 2 semaines entre certains députés provinciaux et un groupe de personnes non identifiées venues prendre part à la plénière. Signalons que si dans certaines provinces les assemblées provinciales ne fonctionnent toujours pas bien, cependant dans d'autres les travaux se déroulent normalement. C'est le cas du Sud Kivu, du Bakongo, du Bandundu, pour ne citer que cela.
Gilbert Kersingé, vous êtes conseiller juridique au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire. Quel état des lieux pouvez-vous dresser du fonctionnement des assemblées provinciales à ce jour?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais saluer tous nos auditeurs. Je sais qu'ils sont très nombreux, même si le signal du côté de Butembo de Beni ne passe plus.
Et j'ai la vérité.
Non, nous sommes du coin, nous savons de quoi nous parlons. Je vous invite donc à réparer ce problème.
Que la direction vous a suivi.
Oui, je voulais dire rapidement que, en fait, tout ce qui se passe au niveau des différentes assemblées et nous conforte dans notre position que la décentralisation est vraiment en marche. Vous savez, il y a tout un processus démocratique qui est mis en marche au niveau des assemblées, au niveau des provinces, parce que le pouvoir a été transféré en partie là-bas. Et il est tout à fait normal que lorsque ces institutions fonctionnent normalement, qu'il y ait des dynamiques internes qui puissent amener les députés, dans l'exercice de leurs attributions, remettent en cause certains modes de gestion, certains modes de fonctionnement de ces institutions-là. Et donc, c'est tout à fait normal, au-delà évidemment des cas où les gens viennent aux mains, c'est à déplorer. Mais lorsque on trouve des députés qui remettent en question la gestion du bureau, je pense que c'est une preuve que la dynamique, la démocratie est vraiment en marche dans ces institutions-là. Et il faut encourager ça et peut-être souhaiter que ça s'exerce avec un esprit républicain, un esprit citoyen, et que ce ne soit pas pour assouvir certains intérêts personnels, comme l'a dit un des auditeurs.
Donc pour vous, le bilan est positif?
Je ne dis pas que le bilan est positif, je dis que nous sommes dans un processus. Vous savez, lorsqu'un enfant vient au monde, il ne faut pas lui demander de naître, de commencer à marcher le même jour et de commencer déjà à se marier. Donc il y a des étapes à parcourir, mais déjà le chemin parcouru en si peu de temps nous conforte dans notre position que les choses sont en train de bouger. Il y a évidemment, sur le plan de l'activité de l'Assemblée, parce qu'ici nous parlons de conflits internes, de dynamiques internes au sein des assemblées provinciales, mais si nous devons évaluer les activités, l'activité parlementaire telle que menée au niveau de l'Assemblée, nous pensons qu'il y a des assemblées qui fonctionnent difficilement. Je connais personnellement une assemblée provinciale, je la cite, c'est celle du Banoubou, qui jusque-là, en 3 ans, n'a produit qu'un édit. Vous voyez qu'il y a quand même...
Et à l'Équateur, presque pas.
À l'Équateur, presque pas. Et la province orientale est peut-être l'Assemblée qui a produit le plus, parce qu'elle a produit 13 édits. Mais en 3 ans, ça fait une moyenne de 4 édits par an, et ce n'est pas encore satisfaisant. Mais bon, pour un début, on peut déjà estimer que c'est sur les rails.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, coordonnateur du réseau d'action citoyenne pour la démocratie RACID, vous venez de suivre Gilbert Kiatsingé. Sur le plan de la décentralisation, c'est positif. Sur le plan de la législature, le fait de légiférer même, la mission des assemblées provinciales, il y a quelques problèmes à relever dans certaines provinces. Quel est votre bilan, vous?
Bon, je pense personnellement que tout d'abord le processus de la décentralisation qui a été mis sur pied par la règle de la Constitution de la République est un processus qui devrait s'accompagner d'une certaine volonté politique et qui devrait se manifester au niveau des responsables politiques, notamment les responsables de l'essai de la décentralisation. Il est à constater tout d'abord que la loi sur la libre administration des provinces a été publiée au premier lieu avec un léger retard, ce qui n'a pas permis certainement à un certain nombre d'assemblées provinciales de fonctionner normalement, parce que comme vous le savez, et c'est la volonté du législateur, du constituant, les assemblées provinciales en République démocratique du Congo n'ont pas de personnalité juridique. Et que donc cette loi sur la libre administration des provinces qui devrait venir éclaircir, déterminer un certain nombre de compétences propres et la manière dont les assemblées provinciales devraient se comporter. Et que donc la promulgation tardive de cette loi sur le principe régissant la libre administration des provinces, et c'est l'un des facteurs qui cause à ce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Mais en ce qui concerne, je parlerai essentiellement de l'Assemblée provinciale au Nord Kivu. Bon, il faut tout de même féliciter aujourd'hui l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a promulgué, a fait sortir, je crois, au total 8 édits. Même si les 8 édits qui ont été votés à l'Assemblée, ce sont des édits ayant trait aux finances, et dont l'initiateur, c'est le gouvernement provincial, il faut tout de même féliciter. Mais ce qui est à regretter, c'est que dans les 8 édits qui ont été votés par l'Assemblée, nous n'avons vu aucun édit, et alors aucun édit qui a été initié par l'un des députés provinciaux. Pourtant, la population a donné à nos députés provinciaux le mandat, premièrement, de mettre sur pied un système législatif cohérent, c'est-à-dire d'initier et de voter les lois. Deuxièmement, de procéder au contrôle du gouvernement et des services publics de l'État. Mais nous avons l'impression que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est beaucoup plus concentrée sur la deuxième mission que la première, alors que la première est tout de même très très importante parce qu'elle devrait permettre de réglementer un certain nombre de domaines d'intervention de la population. Les édits qui ont été promulgués jusque-là, ce ne sont que des édits de finances, Il y a certainement plusieurs propositions d'édits qui sont en examen au niveau de l'Assemblée provinciale, mais jusque-là, il n'y a aucun, et alors j'ai dit aucun édit qui a été initié par l'un des députés provinciaux du Nord-Kivu et qui sont votés, ce qui est tout de même regrettable. Mais également, nous avons l'impression au Nord-Kivu qu'il s'est agi beaucoup plus de querelles entre le groupe politique compte tenu des intérêts politiques. On n'a pas tenu compte des intérêts de la population, on n'a pas tenu compte des intérêts des électeurs dans les petites querelles qu'il y a eu entre le membre du gouvernement provincial, je m'excuse, et le membre de l'Assemblée provinciale. Nous aurions bien voulu que les questions orales, les questions écrites, les motions de défiance, les motions de censure, s'il y en a et s'il y en aura, et ces motions-là puissent avoir comme impact de stimuler le gouvernement provincial à faire mieux qu'il l'a prévu. Là où il a prévu de faire une école, qu'il puisse en construire trois parce qu'il y a une motion de censure. Là où il a un pont qu'il prévoit plus parce qu'il y a une motion. Mais dans le cas contraire, il faut dire qu'il y a vraiment un bilan très très négatif dans les trois ans.
Merci de nous avoir donné, d'avoir ajouté une illustration de plus, hein, la province du Nord-Kivu. Mais de façon globale, quelle est votre évaluation? En un mot.
Mon évaluation est très très négative. Et là, ça m'engage que moi. Très négative, c'est par rapport à la mission première de l'Assemblée provinciale, qui est de voter les lois. Je n'ai pas vu un seul audit voté par l'Assemblée qui soit l'initiative des députés. Par rapport au contrôle, j'ai vu le contrôle effectué, mais quel a été l'impact de ce contrôle sur les vécu quotidien des citoyens? Qu'est-ce que cela a changé sur les vécu quotidien des citoyens? Les citoyens continuent à croupir dans la misère, la situation reste dans le statu quo. Nous aurions bien voulu que toutes ces actions gouvernementales, toutes ces actions de contrôle puisse avoir comme impact un bénéfice qui tire la population sur les actions des députés. Donc notre évaluation est vraiment tout à fait négative pour l'Assemblée.
Voilà. Arsène Mouaka, coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, vous avez la parole aussi pour donner votre lecture du bilan du fonctionnement des assemblées provinciales à ce jour.
Merci beaucoup. Je crois que il convient quand même de féliciter le fait qu'aujourd'hui nous pouvons discuter de la décentralisation, discuter des institutions au niveau de nos provinces, discuter d'une vie politique qui se passe ailleurs qu'à Kinshasa. Je crois de ce point de vue, c'est déjà une très grande évolution par rapport à l'endroit d'où nous venons. Mais je crois qu'il y a eu deux niveaux de problèmes. Il y a un premier niveau de problème, je crois que le conseil juridique l'a relevé, c'est même l'ami qui venait de précéder venait de le relever, c'est le niveau des textes. Et donc, nous avons un chantier, comme on veut que la République ne soit fait que par des chantiers. Et donc, nous avons un chantier des textes qui n'a pas été, qui n'a pas fait l'attraction de nos députés qui ont pour première responsabilité faire les lois. Et donc au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, il n'y a pas eu vraiment une volonté politique claire qui s'est traduite par des textes qui ont été mis à la disposition des assemblées provinciales pour qu'elles puissent agir correctement. Et donc à ce niveau des textes, c'est négatif. Et c'est le principal problème à mon avis qui a fait naître des pratiques politiques que je résume à cinq points, notamment des pratiques politiques liées à notre comportement de transition qui veut que le plus souvent quand nous faisons nos transitions au Congo, nous prenons des éléments anciens pour faire de nouvelles choses. Et donc, on prend des pratiques dictatoriales, toutes les manœuvres anciennes pour vouloir procéder à la démocratie. Deuxième niveau de problème, c'est le niveau de civisme. Je crois que ça a été relevé, la notion de bien commun, de l'intérêt de la population, et ainsi de suite, ne semble pas exister dans les pratiques qui se sont observées tout au long de cette durée. Troisième niveau de problème, c'est les pratiques politiciennes. C'est-à-dire qu'on continue à se battre pour le pouvoir, même en dehors des élections. Donc, on sait comment les élections se sont passées au niveau des provinces. Il y a eu beaucoup de manipulations et cette manière d'être élu, de mettre en place des gouvernements provinciaux, a fait que pratiquement les députés ont continué à faire des querelles de pouvoir, même arrivés au pouvoir. Il y a le cas de l'Équateur, il y a le cas du Nord Kivu, et partout ailleurs où systématiquement des groupes politiques cherchent à récupérer le pouvoir. Pour quatrième niveau de problème, c'est la culture du travail des Congolais. Je crois que ça vient d'être relevé assez. Trop peu de vies ont été produits par nos députés. Du coup, ils n'ont pas travaillé. Et donc, si c'est une moyenne de 4 vies par année, ils ont pris l'argent de la République pour rien. Et donc, je crois que là aussi, c'est un problème des hommes pour qui nous, la population, nous avons voté. Nous avons voté pour qui? Ceux qui nous plaisent, ceux qui nous parlent bien ou ceux qui ont une expérience à partager dans la gestion de la chose publique. Et en fait, c'est un problème d'hommes. Qui sont nos députés, les hommes que nous avons, pour qui nous avons voté? La plupart ont pour expérience, la première expérience professionnelle, la campagne électorale. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Parfois, des étudiants, ils viennent de finir ses études. Premier travail à faire, c'est la campagne électorale. Et donc, il y en a comme ça et qui sont devenus des grands responsables et des grandes commissions dans nos provinces. Et du coup, on ne peut pas attendre un autre travail que le vide. Et donc, le bilan, à mon avis, est négatif. Puisque gouverner, c'est prévoir. Et là, je ne suis pas d'accord avec les conseils juridiques. On aurait dû éviter que des guéguerres qui s'observent puisse être observé. C'est vrai que ça traduit une certaine vie démocratique, mais je crois que le désordre qui domine nos provinces engloutit davantage les efforts qui consistent à relever le niveau de vie de nos populations. Et donc, le gouvernement, en tout cas, il doit pouvoir faire davantage d'efforts pour pouvoir doter les provinces des textes, opérationnaliser un certain nombre de mécanismes plus rationnels de contrôle comme la Cour des comptes et ainsi de suite.
Merci Gilbert Katsing. Je venais de suivre Arsène Mouaka. Il parle d'une absence manifeste de volonté politique pour n'avoir pas doté les provinces des textes pouvant faciliter leur fonctionnement au niveau du gouvernement central. Vous allez répondre à cet aspect, mais il a également évoqué le fait de la première expérience pour beaucoup de députés. Peut-on à ce niveau-là parler de l'absence de formation à la gestion de la chose publique?
Oui, merci beaucoup. Je crois que la première observation que je voudrais donner à ce niveau, c'est que nous devons hésiter à considérer la décentralisation, la gestion des affaires de l'État, selon le mot de la décentralisation, comme étant une affaire d'un acteur, c'est-à-dire le gouvernement central. J'ai comme l'impression que, alors que nous militons pour remettre le pouvoir à la base, remettre le pouvoir au niveau des provinces et d'autres attributions au niveau des entités territoriales décentralisées, il y en a qui pensent que nous devons encore les reprendre pour aller gérer jusque dans leur cuisine interne. Mais lorsque moi je dis que nous nous félicitons de la dynamique qui s'observe, et bientôt, lorsqu'on va faire les élections au niveau des ETD, il y aura encore d'autres dynamiques. Nous sommes en politique, il y a des ambitions qu'il faut gérer, il y a des situations qu'il faut bien gérer. Mais je voudrais, par rapport à la question de la cause de ce dysfonctionnement qu'on va imputer au ministère de la Défense, je voudrais d'abord rappeler que ce ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire est né en 2008. C'est vraiment une création récente. Et depuis que ce ministère est là, vous avez vu le travail que nous avons abattu. Il y a des évolutions, des campagnes de sensibilisation qui font que tout le monde commence à sentir qu'en tout cas nous sommes sur le bon chemin et que nous devons continuer sur cette lancée. Mais comme toute entreprise, lorsque vous montez une entreprise, vous savez que cette réforme a été consacrée par la Constitution du 18 février 2006. Eh bien, on ne pouvait pas, après avoir promulgué la Constitution, déjà le lendemain, mettre en place toutes les institutions. Il fallait d'abord, comme c'est une réforme très importante, c'est même un modèle que les autres pays sont en train de venir pousser chez nous, eh bien, il fallait d'abord faire comprendre la chose à tout le monde, faire en sorte que tout le monde s'approprie la chose. On a organisé un forum national au moins en 2007.
Voilà, avec nous n'allons pas nous perdre dans ces considérations-là. Revenons aux assemblées provinciales directement, ça nous fait gagner du temps. Y a-t-il un problème d'hommes dans nos assemblées provinciales?
Ça, c'est évident. Ce n'est pas seulement au niveau des assemblées provinciales. Les problèmes d'hommes s'observent partout. Vous savez, lorsque nous avons organisé les élections, beaucoup de gens ont pensé que l'enjeu majeur, c'était au niveau des assemblées nationales et du Sénat. Alors que nous avons besoin des hommes aguerris au niveau le plus bas, parce que le développement devra partir de la base. Moi, je plaide même que, lorsqu'on va organiser les élections locales, que nous puissions avoir des hommes aguerris
de vertébrer au niveau des communes, des villes, et comme ça, au niveau de la province, nous en avons d'autres, même si au niveau central, il peut y avoir des choses qui ne marchent pas très bien, mais déjà, la base sera en train de se développer. Et donc, on a voté, la loi électorale nous a induit en erreur, elle n'a pas tracé le profil de la personne pour laquelle on devait voter. Il suffisait d'être congolais, il suffisait d'avoir 25 ans, révolu au moment de la clôture du dépôt de candidature, il suffisait d'être figuré sur une liste d'un parti politique. Eh bien, même si le candidat sait à peine écrire son nom, eh bien, il suffit qu'elle soit populaire dans un secteur donné, eh bien, on a un député. Ça fait que, en plus du fait que nous avons quand même des personnalités, des individualités qui se confirment, mais il y a une grande partie des députés dans certaines provinces qui sont productifs. Et ça, il faut qu'on le dise. Et donc, ça fait que nous devons tenir compte de ça pour que la prochaine fois, nous puissions quand même définir le profil des candidats à élire. Dans la loi électorale, c'est un vœu que je formule ici.
Henri de Lubumbashi au Katanga dit ceci, les assemblées provinciales ont été piégées par l'AMP qui a souhaité mettre ses pions pour mieux contrôler les provinces et masquer leur façon de gérer la chose publique par les gouvernements provinciaux. Toutes ces assemblées ne marchent pas. Je pense que c'est le moment ou jamais pour que l'AMP et les dirigeants au sommet de l'État démontrent que l'opération tolérance zéro est réellement effective.
Non, il ne faut pas voir la chose dans le sens de l'AMP. Nous sommes en démocratie, c'est la volonté du peuple. Et dans la démocratie, on a des régimes majoritaires. Si vous lisez la loi sur la libre administration de province, vous allez voir une disposition qui prévoit que on peut dissoudre l'Assemblée provinciale si elle n'arrive pas à dégager une majorité dans 6 mois. Donc on doit fonctionner avec des systèmes de majorité aux côtés des minorités. Ça, c'est vraiment propre à toute la démocratie. Alors il ne faut pas dire que c'est parce que l'AMP a piégé. Et non, il doit y avoir une majorité. Et donc là, ce n'est pas ça la faute. Il faut plutôt rechercher les causes profondes. Je vous ai dit qu'il y a d'abord la loi électorale qui n'a pas tracé le profil, mais aussi à l'actif du député. Et lorsque vous descendez dans certaines provinces, même ici à la ville de Kinshasa, vous savez que l'Assemblée provinciale n'a pas de siège. Pour produire un travail de qualité, il faut quand même assister sur une table comme celle-ci, et réfléchir dans un bureau climatisé. Et il y a ça, il y a le problème de renforcement des capacités. Vous savez, les recyclages, autres, ce sont des mécanismes. Même les gens qui ont étudié ont besoin d'être parfois remis à niveau par rapport à certaines questions. Et donc, il y a un certain nombre de choses que nous, à la décentralisation, on analyse comme défi, mais pas comme obstacle à la mise en œuvre de la décentralisation. Et ça nous amène à chercher des voies de sortie pour que ça marche mieux demain, mieux qu'aujourd'hui.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, je vous repose la même question qu'à Gilbert Katzing. L'absence de la formation à la gestion de la chose publique, et en plus les interférences politiques se sont tellement fait sentir au point, comme l'a dit Arsène Mouaka et vous-même d'ailleurs, qu'on n'a plus pas tellement ressenti l'intérêt de la population. Hein.
Bon, tout à fait, je crois que le problème, l'un des problèmes ou des facteurs qui entravent le dysfonctionnement, c'est que d'abord il y a un problème d'hommes. Je pense que les partis politiques qui ont préparé les candidats pour être députés provinciaux n'ont pas joué le rôle qui était le leur. Parce qu'il appartient aux partis politiques la lourde responsabilité de faire une sorte de simulation de responsabilité, une sorte de simulation de la gestion de la chose publique avant de pouvoir éjecter tel ou tel candidat dans la campagne électorale. Je crois qu'au niveau politique, il n'y a pas eu suffisamment de préparation des candidats qui devraient être de futurs députés provinciaux. Il y en a qui n'avaient jamais eu des notions de la gestion de la chose publique, même dans des petites organisations comme celle que nous dirigeons. Il n'a jamais été responsable d'une petite organisation de 5 ou 6 personnes. Il ne sait pas comment ça se passe, mais il devient député provincial. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un problème d'hommes, mais également il y a un problème de responsabilité de la part de partis politiques, pour ceux qui sont venus de partis politiques, mais également de la part de ceux qui sont indépendants, parce que la plupart de ceux qui sont indépendants ont leur berceau dans la société civile. Je pense que là également la société civile devrait jouer un rôle dans la mesure où la Constitution donne ouverture à ce qu'il y ait des candidatures indépendantes. Ça veut dire que chaque fois la société civile peut j'étais sur la scène politique, des animateurs politiques qui peuvent peuvent se comporter comme modèle, parce que là, au moins, on essaie de voir comment organiser les hommes dans les associations, dans les réseaux, dans les synergies, etc., etc. Donc, en bref, je crois que vraiment ce problème-là, un problème d'hommes, un problème de responsabilité au niveau des partis politiques. Nous devons croire qu'avec les élections 2011, puisque la population a déjà compris les défaillances des partis politiques, les défaillances des hommes politiques, les défaillances même de certains regroupements politiques, je crois que les partis politiques vont reprendre leurs responsabilités en formant leurs candidats qui voudront devenir, je ne sais qui, président de la République, je ne sais qui, député national, je ne sais qui, député provincial, etc., etc., jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées.
Il y a Emina Bassembe de Mbandaka à l'Équateur qui dit « La crise qui se vit dans l'Assemblée provinciale de l'Équateur et d'autres provinces sont des crises politiques téléguidées par certaines personnes placées dans certaines fonctions politiques. C'est en soi des règlements de compte déplorables et non bénéfiques pour la population. J'invite les députés provinciaux à respecter les procédures d'usage prévues dans leurs règlements intérieurs. » Yves Loubouli de Lubumbashi au Katanga, tout cela repose sur le partage des postes au sein de la classe politique qui repose plus sur des critères autres que la compétence. Je pense qu'être mobilisateur des masses lors de la campagne ne signifie pas que l'on est nécessairement un bon gestionnaire des affaires publiques. Moi, je constate que ce sont pour la plupart ces mobilisateurs des masses qui ont été récompensés, qui par un poste ministériel, qui par un poste au bureau de l'Assemblée nationale ou provinciale. Un petit commentaire, maître Jean-Paul Lumbulumbu.
Bon, tout à fait, je crois que la vision le point de vue de cet auditeur est vrai, parce que nous le constatons même dans la plupart du monde, en Orkivo, il y a beaucoup de députés qui sont élus députés, tout simplement parce qu'il avait une opinion qui pouvait convaincre les gens, il pouvait rassembler les gens, les gens pouvaient l'écouter, mais sans projet de société, sans aucune vision sur comment se comporter en tant qu'homme d'État. Évidemment, la notion d'homme d'État manque aux Congolais. L'homme d'État, c'est celui qui réfléchit pour l'intérêt de l'État, c'est celui qui réfléchit pour l'intérêt de son parti politique, c'est pas celui qui réfléchit pour l'intérêt de son alliance à laquelle il fait partie, c'est celui qui réfléchit pour l'intérêt des citoyens. Cette notion également manque dans le chef de la plupart de nos députés provinciaux qui sont là juste pour la plupart pour des intérêts politiques, pour des intérêts des alliances qu'ils représentent dans les assemblées, pour les intérêts de gens qui ont soutenu financièrement ou matériellement leur campagne, mais cette notion de la gestion de la chose publique au bénéfice des citoyens congolais également manque. Donc je pense que le point de vue de cet auditeur est tout à fait exact.
Arsène Mouaka, il y a Claver Kassa de Goma en Nord Kivu qui dit « Pour moi, c'est un bilan de querelles partout. Les députés croyaient que l'Assemblée provinciale, c'est un lieu de repos. La vraie cause est l'amour de la facilité congolaise. Tout le monde veut toucher à l'argent. »
Oui, un sérieux problème pour notre politique. Finalement, Jean-François Bayard l'avait conceptualisé par la fameuse expression de la politique du ventre. Je crois que ça domine toute l'Afrique et particulièrement le Congo depuis les années où on pouvait dormir charretier, se réveiller ministre. Et donc, ça nous poursuit. La société a produit ces hommes, ils sont là. Et c'est dans notre culture désormais que quand on est au pouvoir, c'est pour manger. Et donc, celui qui ne mange pas est orgueilleux, la société peut se moquer de lui. Je crois qu'il nous faut une autre culture, et cette culture ne va pas venir du vent. Ça doit être voulu par ceux qui sont haut placés et qui ont la majorité. Ils doivent annoncer le temps, c'est vrai par des slogans, mais je crois aussi par des actes concrets. Et je crois que la préoccupation de l'argent est très visible chez nos députés. Ils ont besoin d'argent et ils se font de l'argent.
Voilà, il y a Patou de Lubumbashi au Katanga qui dit « Je pense qu'on n'a pas suffisamment mûri la question de la décentralisation, du financement et la collaboration entre institutions. » Arsène Mouaka, commentaire.
Je ne partage pas cet avis puisque je crois que la décentralisation c'est une demande ancienne et il y a eu des tentatives. Et ce que nous reproduisons aujourd'hui, nous l'avons fait hier avec la fameuse décentralisation du parti État. Et donc, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites. On a choisi les mentions, il est vrai. Il fallait décentraliser puisqu'il fallait éviter un modèle dont on avait peur. Et nos textes sont truffés de ce genre de comportements émotionnels que certains veulent rationaliser, mais à chercher à politiser un certain nombre d'éléments. Donc, je crois qu'il nous faut opérationnaliser ce qui est opérationnalisable pour le moment, à corriger les erreurs, bien sûr, mais il nous faut quand même montrer la volonté d'avancer, puisque de plus en plus, on semble voir qu'il y en a qui veulent freiner la machine. Et là, je crois que ça ne fait pas partie de la demande de la population. Et donc, je refuse de rentrer dans ce débat politicien qui veut qu'on dise qu'on n'a pas suffisamment mûri. Il faut d'abord activer et corriger comme on le fait.
Fonctionnement des assemblées provinciales. En province orientale, les députés exigent la démission du bureau, à l'Équateur celle du président, et au Katanga, le siège de l'assemblée provinciale est toujours fermé. Quel état des lieux dressé du fonctionnement des assemblées provinciales à une année de la fin de la législature actuelle? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Nos invités sont Gilbert Kassingé, conseiller juridique au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, coordonnateur du réseau d'action citoyenne pour la démocratie racide, Arsène Mouaka, coordonnateur du centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Vous souhaitez réagir, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais, vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment améliorer le fonctionnement des assemblées provinciales? C'est la deuxième partie de cette émission. Gilbert Kassingé, il y a Gabriel Famba de Kisangani en province orientale qui dit « Pourquoi garder les bureaux de nos organes délibérants au moment où ils ont montré leurs limites dans la gestion de la chose publique ?»
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord replacer les choses dans leur contexte. J'ai suivi les collègues intervenir, mais je crois qu'il ne faut pas faire de cette question une analyse superficielle. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle un état post-conflit. Nous étions dans un pays qui était morcelé pratiquement et qui avait besoin de la paix. Voilà pourquoi on a élaboré une loi électorale qui pourrait favoriser, n'est-ce pas, cette sorte de réunification des peuples, des acteurs politiques, et de sorte qu'aujourd'hui, vous savez, c'est plus un secret, il y a des députés, que ce soit au niveau national ou provincial, qui siègent avec moins de voix que certaines personnes qui étaient candidats qui ont beaucoup de voix. Vous pouvez, parce que le système de liste avec la proportionnelle, le système électoral qui a été mis en place, à favoriser des députés qui sont parfois moins populaires.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire, je veux dire que comme nous avons franchi cette étape qui nécessitait de consolider les acquis de la paix, il faudrait élaborer une loi électorale qui puisse tenir compte de la volonté réelle de la population. C'est-à-dire, une personne qui a eu 5000 voix ne peut pas être écartée alors que quelqu'un qui a 900 voix siège et retenu comme député. C'est pas normal. Il faudrait qu'on apprécie en disant la population a donné 10 000 voix à tel candidat, eh bien, elle est privilégiée par rapport à celui qui a 8 000 voix.
Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, parce que celle-là, c'est la première, la deuxième chose, la loi devra définir le profil des personnes à élire. Sinon, nous allons retomber dans ce que j'ai dénoncé, la faible productivité législative au niveau des assemblées provinciales. Il faut donc tracer quand même un minimum de profils pour qu'on ne retrouve plus des gens qui ne savent pas écrire leur nom au niveau des assemblées et qui deviennent des applaudisseurs automatiques. Il y en a même qu'on a vu dans les assemblées, lorsqu'on dit qui sont pour, il est pour, lorsqu'on dit qui sont contre, il se lève l'autre doigt, il est contre, qui s'abstient, la même personne s'abstient. Tout ça parce que la personne ne comprend pas ce qu'elle fait. Et donc ça, il faut l'éviter. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais il y a quand même des députés qui sont dans cette situation-là. Et ça gêne le bon fonctionnement. Alors, comment améliorer? C'est d'abord les deux solutions.
Allez-y, à la troisième, on va passer la parole.
Oui, alors, comment améliorer? Eh bien, là, j'en appelle à la responsabilité des partis politiques. Les partis politiques devront jouer leur rôle de formation de leur cadre. Il faut vraiment multiplier les séminaires de formation des cadres
pour les initier aux pratiques démocratiques. Les partis ne doivent pas rester là pour faire des déclarations politiques lorsqu'il y a des événements graves, mais on doit avoir aussi des activités quotidiennes de formation des cadres.
Mais, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, que pouvez-vous ajouter à ces trois solutions proposées par Gilbert Katsing pour améliorer le fonctionnement des assemblées provinciales?
Je suis content que le conseiller Gilbert Katsing ait rejoint notre point de vue par rapport à la faiblesse dans les activités, dans la responsabilité des partis politiques. Je crois que la première des choses pour améliorer le fonctionnement dans les futures assemblées politiques, c'est que le parti politique d'abord qui présente le candidat devrait préparer ses candidats à la gestion de la chose publique. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que le candidat qui se présente au nom de tel ou de l'autre parti ou un candidat indépendant, sache qu'il y va non pas au nom de son parti politique, non pas au nom de son alliance, mais il y va au nom de ses électeurs qui lui ont donné le mandat de le représenter, de parler en son nom et de défendre ses intérêts. Troisièmement, il faudrait que le règlement intérieur des assemblées provinciales tout de même essaie d'être révisé pour être uniformisé de manière à ce que les députés puissent jouir d'un certain nombre de pouvoirs qui les permettent tout de même de bien faire leur mission en toute indépendance, en ne tenant pas compte des alliances, parce que très souvent également, le mauvais fonctionnement de l'Assemblée, c'est dicté par les partis politiques, c'est dicté par les alliances. Voilà, il faut attaquer tel ministre, il faut faire sauter tel ministre parce qu'il n'est pas de l'obédience de telle alliance. Ça, c'est également parmi les choses qui tuent le fonctionnement de ces assemblées provinciales. Et je crois que dans les futures assemblées provinciales, il est très très important qu'on essaie de voir comment est-ce que les assemblées, les députés peuvent travailler au bénéfice des populations sans tenir compte de leurs origines, je veux dire leurs partis politiques et leurs alliances. Également, autre chose pour améliorer la faiblesse de l'opposition dans les assemblées provinciales également tue les choses. Je crois que très prochainement, si le peuple congolais peut essayer de voir comment augmenter un peu le nombre de députés et de l'opposition, ça permettrait un certain équilibre, ça permettrait à ceux qui constituent la petite majorité de se comporter à bon escient, et cela au bénéfice des populations.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, pensez-vous qu'il soit possible de mettre fin aux influences politiciennes dans la gestion de la chose publique au niveau des provinces?
Bon, je crois que sur base d'un processus, c'est possible. Lorsque le député part, c'est vrai qu'il a été élu au nom de tel ou tel autre parti politique, mais lorsqu'il est à l'Assemblée provinciale, il ne représente pas le parti politique, parce que ce n'est pas le parti politique qu'il a élu, ce sont les électeurs qui l'ont élu. Alors s'il peut porter la casquette de ses électeurs et mettre la casquette de son parti politique à côté, je crois que ça peut résoudre le problème. C'est vrai qu'il peut continuer à connaître certaines influences de son parti politique, mais il ne faudrait pas que les influences de son parti politique puissent avoir des primats sur les intérêts des citoyens qui l'ont élu et qui lui ont donné le mandat et grâce à qui il est devenu député.
Merci. Arsène Mouaka, vous venez de suivre Gilbert Katsingé et Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Que pensez-vous particulièrement de l'aspect lié à la faiblesse de l'opposition qu'a relevé Maître Jean-Paul Lumbulumbu?
Oui, je crois que ça c'est un drame, c'est le drame de notre petite démocratie que nous sommes en train de construire, c'est que très rapidement on a vu l'opposition s'évaporer et se diluer dans pratiquement la course aux intérêts, et c'est là même la montée d'une, en fait, des pratiques genre contrôle-chantage, et donc un député qui, puisqu'il a le pouvoir d'une motion qui tentait le gouverneur, en fait il initie quelque chose juste dans le but de se donner un peu d'argent. Et donc l'opposition est mal utilisée, je ne cite pas ici des assemblées, mais c'est des pratiques qui sont assez courantes, où pratiquement le contrôle parlementaire est un levier politique et même un levier financier. Hein, on le soulève pour gagner un peu d'argent et cela tue notre démocratie. Mais je voulais quand même aussi contribuer à
l'amélioration,
d'abord à court terme. Moi, je pense qu'il est possible d'améliorer ce qui se passe en province. Tout n'est pas mauvais, il y a du bon travail qui est fait par ces députés de qualité. Et il y en a qui sont en train d'apprendre, et d'ailleurs, la plupart, ils ont quitté leur village, ils se sont inscrits dans les universités. Et donc, je crois qu'il y a un apprentissage réel qui est en train de se faire en province. qu'il faut encourager, pas une seule chose, cela doit provenir de Kinshasa comme gouvernement central qui place la décentralisation comme un vrai projet, le projet même du gouvernement, c'est-à-dire reconstruire l'État congolais pour la décentralisation. Cela doit être un projet clair. Les provinces doivent cesser de subir Kinshasa, qui, selon son beau vouloir, rétrocède ce qu'il veut et rétrocède indistinctement comme il veut et quand il veut, et de telle sorte que même parfois des charges qui sont dévolues à Kinshasa sont transportées par les provinces qui ont leur budget qui ne prévoit pas certaines dépenses telles que, par exemple, je peux citer la dotation des députés. Ils fonctionnent par une dotation, en fait, ils sont payés par une dotation qui est donnée par le gouvernement central, mais si ça traîne, eh bien, le gouverneur qui est menacé, il est toujours menacé puisqu'il a des personnes les plus capricieuses à côté de lui, il doit payer et quitte à se faire rembourser par Kinshasa, qui le plus souvent ne rembourse pas. Et donc cela dénote une certaine volonté de Kinshasa comme gouvernement central de ne pas placer la décentralisation comme une des stratégies de refaire l'État au Congo.
Ça c'est à court terme, à moyen terme.
Oui, à moyen terme je dirais qu'il y a des textes qu'il faut seulement appliquer. Le texte prévoit par exemple que le contrôle qui est fait au niveau de province soit aussi fait par la Cour des comptes. Où en est-on? Et donc c'est des problèmes concrets autour desquels on peut discuter au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je voulais dire aussi à moyen terme qu'on puisse mettre des garde-fous pour éviter pratiquement cette vie morose qui se passe à province, qui consiste à charger Kinshasa. Et là, je rejoins le conseiller quand il a dit que certaines provinces se comportent comme si elles ont encore besoin que Kinshasa aille légiférer. C'est-à-dire que les Congolais doivent, en province, s'illustrer comme des acteurs réels. Mon ami qui gère une organisation de la société civile doit pouvoir agir en tant que mouvement citoyen pour pousser les députés avec qui ils vivent, avec qui ils partagent parfois la vie, les interpeller,
merci,
parfois manifester. Et donc, c'est des actions qui peuvent pousser les Congolais à être eux-mêmes des acteurs de leur propre devenir.
Voilà, Gilbert Kassingé, nous abordons pratiquement la dernière partie de l'émission qui concerne les conclusions. Que faut-il faire à une année pratiquement de la fin de la législature pour sauver les meubles au niveau des assemblées provinciales? C'est ça aussi votre conclusion?
Oui, que faut-il faire? Tout. Il faut tout faire. Il faut
renforcer
les capacités des acteurs de la décentralisation à tous les niveaux. Il faut organiser les élections au niveau local, municipal. Il faut tout faire. Il faut doter les assemblées provinciales des infrastructures qui leur permettent de travailler dans la quiétude. Et bref, nous avons déjà fait l'évaluation de la situation et nous sommes en train de proposer des mesures. Mais je voudrais réagir rapidement
par rapport à
ce qu'on a appelé l'influence politique, le député qui est élu sur une liste d'un parti politique, qui doit du coup commencer à réfléchir comme s'il n'appartenait pas à un parti politique. Je crois que l'orateur qui a dit ça, il ne comprend pas très bien la loi, parce que la loi va jusqu'à dire qu'un député qui a été élu sur base de la liste d'un parti politique, s'il quitte son parti politique, il perd son mandat. Cela signifie que lorsque vous êtes élu député, eh bien vous allez défendre le projet de société de votre parti. Mais lorsque vous commencez à vous comporter comme si vous n'appartenez pas à un parti, c'est que vous avez, vous, votre projet de société, et le parti a le droit de vous retirer sa confiance. Donc le député doit défendre son parti. Voilà, et avec évidemment une vision citoyenne, une vision républicaine.
Merci. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, conclusion.
En conclusion, il n'est jamais tard pour mieux faire. Je pense que les députés provinciaux peuvent encore essayer de profiter de toutes ces remarques qui leur sont adressées pour améliorer le fonctionnement des institutions politiques et qui comptent beaucoup sur eux. Et j'insiste en disant, voilà, il faut que les députés provinciaux, une fois dans les assemblées provinciaux, défendent les intérêts des citoyens, non pas les intérêts des partis politiques. Voilà,
merci.
Je vous remercie.
Arsène Mouata, bref conclusion également.
Oui, juste pour dire que le pouvoir comme député provincial est très étendu. Il va être limité par des textes, sinon il s'avère dangereux à la fois pour nos provinces et pour l'avenir de notre État.
Merci beaucoup. Fin de cette émission. Guy Maté, Kevin Kouté, Samuel Kachak vous l'ont préparé. Martin Sebujangwe l'a coordonné. Guy Manzangou la mise en onde. Alain Irungo Mouchige vous l'a présenté. Bonne fin de semaine.